Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le cours de l'histoire.
Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
Ce sont les hasards de la programmation. Avec Anaïs Quin, que nous retrouvons en fin d'émission pour son journal de l'histoire, nous voulions parler d'un livre qui vient de paraître, « Les prisons de la foi ». C'est un livre sur l'enfermement des minorités religieuses avant la Révolution française. Un livre de Natalia Mouchnik, une approche intéressante de ce qu'est la prison qui, étonnamment, peut être un espace de liberté. Et puis, nous voulions parler d'une autre actualité, les 70 ans de la République populaire de Chine, fêtée en grande pompe. Alors qu'à Hong Kong, des tirs à balles réelles ont eu lieu contre des manifestants qui luttent pour la démocratie. Enfermement des minorités religieuses sous l'Ancien Régime et République populaire de Chine, là où les Ouïghours, la minorité musulmane à l'ouest du pays, sont persécutés dans des camps d'enfermement où nous sommes loin d'espaces de liberté. Ce sont les hasards de la programmation. Durant toute la semaine, le cours de l'histoire sur France Culture s'est intéressé à la naissance des monothéismes, des émissions à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr ou bien en podcast. Et aujourd'hui, nous allons parler d'actualité. La première concerne directement mais un quart de l'humanité, aurait-on envie de dire. Mais en vrai, ça concerne le monde entier puisqu'il s'agit de la République populaire de Chine, les 70 ans de cette République populaire qui, en réalité, mérite un petit approfondissement parce qu'il y a plus que 70 ans pour comprendre ce qui se passe en Chine. Avec vous, Xavier Paulès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez écrit « L'opium, une passion chinoise ». L'opium à la source de beaucoup de choses dans l'histoire de la Chine qui nous conduit au 19e siècle avec la guerre de l'opium. Ça, c'était chez Payot. Mais surtout, vous arrivez avec la République de Chine, histoire générale de la Chine. Attention, date 1912-1949. Car pour comprendre la Chine d'aujourd'hui, il faut regarder ce qui s'est passé au début du XXe siècle. Et puis après, nous allons parler d'enfermement, enfermement religieuse, les prisons de la foi, l'enfermement des minorités, XVIe, XVIIe siècle. C'est un livre, XVIIIe siècle, c'est un livre qui vient de paraître au PUF, Presse universitaire de France, avec vous, Natalia Mouchnik. Bonjour.
Bonjour.
En fin d'émission, nous retrouverons Anaïs Quin, qui assure la programmation du cours de l'histoire, Anaïs Quin, avec son journal de l'histoire. Mais pour le moment, un bricolage sonore ciselé par Thomas Joss, qui réalise également cette émission, un bricolage sonore grâce aux archives de l'Institut National d'Audiovisuel, une traversée de l'histoire de la Chine du milieu du XXe siècle à nos jours.
La guerre en Chine continue, marquée par l'irrésistible avance des forces communistes. Et les premières images de l'entrée des troupes de Mao Tse-Tung à Shanghai, évacuées par les nationalistes, ont pu parvenir intactes jusqu'à Hong Kong. Shanghai, première étape d'une offensive qui devait se développer avec une rapidité extraordinaire et entraîner, dans les premiers jours d'octobre, la chute de Canton.
Après 30 années de lutte, Mao Tse-Tung proclame à Pékin le 1er octobre 1949 la République populaire de Chine. Il dit alors, ces années de lutte, ces millions de morts, ces sacrifices, tout cela n'est qu'un commencement. Dans quelques décennies, la victoire ne paraîtra qu'un court prologue à un drame prolongé.
Pékin, 27 mai 1976. Mao Tse-Tung reçoit le premier ministre pakistanais, M. Ali Bhutto. C'est la dernière image de Mao vivant. Deux semaines après, le 15 juin, le comité central du Parti communiste chinois annonçait que Mao, affaibli par la maladie, ne pourrait plus recevoir de visiteurs étrangers de passage en Chine. Et puis aujourd'hui, la nouvelle est tombée, Mao est mort.
Thank you.
Depuis hier, Hong Kong connaît un regain de tension et de violence. Dans la soirée déjà, les forces de l'ordre ont fait usage de canons à eau sur les manifestants, réunis pour célébrer le 5e anniversaire du début du mouvement des parapluies, mouvement précurseur de la mobilisation actuelle.
C'était une promesse. Il y a 5 ans, nous avions annoncé que nous comptions revenir et maintenant nous sommes de retour. Nous voulons montrer que nous n'abandonnerons pas si facilement.
Hasard du calendrier, cet anniversaire tombe au moment où la Chine populaire s'apprête à célébrer mardi les 70 ans de sa fondation. Les manifestants ont donc prévu de nombreuses actions tout le week-end et en début de semaine.
Une traversée de l'histoire de la Chine du milieu du XXe siècle à nos jours, à travers les archives de l'audiovisuel. Xavier Pollès, l'histoire de la Chine se résume souvent à la Chine communiste telle qu'elle est enseignée. Pourtant, l'arrivée au pouvoir en 1949 de Mao, ou en tout cas le moment où le régime communiste s'affirme en Chine, n'est pas vraiment une révolution, c'est plutôt le fruit d'un long processus. C'est ça que vous avez étudié, ce processus des années 1910 à 1949 qui a permis au communisme de s'installer en Chine. Il est souvent écarté, ce moment-là.
Effectivement, le montage sonore commence par une allusion à une guerre. Il s'agit de la guerre civile de 1946 à 1949 qui met aux prises le Kuomintang et le Parti communiste chinois. Mais avant cela, il y a depuis la fondation du Parti communiste en 1921, une longue période durant laquelle le Parti communiste va petit à petit s'affirmer, non sans retour en arrière, puisque à plusieurs reprises, le Parti communiste chinois va friser l'anéantissement total. Et donc, il va finir par triompher en 1949. Avec, il faut bien le dire, et c'est une des choses sur lesquelles j'insiste beaucoup dans le livre, le résultat d'un concours de circonstances assez extraordinaire qui a joué pour lui.
Oui, parce que la vraie rupture dans l'histoire de la Chine, dans cette histoire millénaire, c'est pas tellement 1949, on pourrait dire que c'est bien plutôt au début du XXe siècle, c'est les années 1910, c'est le moment où cette monarchie millénaire disparaît. Là, il y a une vraie révolution.
Je pense qu'on peut affirmer que 1912 est un tournant de l'histoire de l'humanité. Dans la mesure où, vous l'aviez souligné vous-même, la Chine représente un quart de la population mondiale. Et en 1912, on bascule dans un nouveau modèle politique, social, intellectuel, avec la révolution. Et donc, de plus en plus, dans l'historiographie, on tend à relativiser la rupture de 1949 qui, il faut dire, avait traumatisé les contemporains. Quand on a vu, dans un contexte de guerre froide, basculer dans le camp soviétique un quart de l'humanité, précisément, ça a quand même alerté les intellectuels. Et donc, on remet de plus en plus en cause la rupture de 1949 pour montrer que le PCC, Parti communiste chinois, dans une large mesure, est le continuateur du Kuomintang.
Oui, parce que cette rupture incroyable, quand on regarde l'histoire de la Chine, en 1912, enfin ce qui se passe dans ces années-là, 11-12, est majeur. Quand on évoque l'histoire de la Chine, on a effectivement une histoire contemporaine qui est liée au communisme, et puis après une histoire beaucoup moins connue et souvent un peu fantasmée, liée aux grandes dynasties, les Ming, les Qing. Mais c'est vrai qu'on a sur une très longue continuité des monarchies en Chine, et cette rupture de 1912 est l'amorce en fait du processus qui conduit à 1949, au moment où le régime communiste s'impose en Chine. Comment il se construit ce parti communiste en Chine dès l'origine, ou on est déjà au tout début dans une révolution bourgeoise, dirons-nous?
Alors peut-être qu'il faut faire un petit détour en précisant bien le fait que cette période républicaine, donc 1912-1949, a été écrite, réécrite par le Parti communiste chinois dans une perspective téléologique. C'est-à-dire qu'il fallait expliquer la victoire de 1949 et donc noircir au maximum cette période de 1912 et surtout 1912-1949 et surtout effacer ses virtualités. Et une des virtualités de cette période, c'est que la Chine puisse devenir une démocratie parlementaire. Et ça, c'est quelque chose qui reste à l'horizon politique de la période républicaine, et en réalité, la victoire du Parti communiste chinois n'était certainement pas écrite d'avance, et c'est une période foisonnante qui aurait pu, et qui aurait même probablement dû, se terminer d'une manière très différente.
Oui, Xavier Pollès, vous évoquez la téléologie, le piège en histoire, parce que nous avons la chance de connaître la fin. Nous savons comment ça s'est terminé, et qui est le vainqueur, mais en vérité, tous les chemins sont possibles, et si on se place pour un Chinois contemporain de 1912, il y a plein de voies envisageables, et en tout cas, pas obligatoirement celle du communisme, encore moins en 1912, peut-être en 1921. Ce qui est intéressant aussi dans cette lecture téléologique, en regardant un petit peu vers l'arrière, c'est que le communisme a reconstruit son histoire, mais même beaucoup plus loin, il a également reconstruit son histoire, celle du 19e siècle, celle des guerres de l'opium. On écoute Alain Perfit, diplomate, écrivain, membre de l'Académie française, mais surtout auteur en 1973 de « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ».
Bien, je pense que le président Mao a su incarner les traditions chinoises, a su incarner la voix chinoise, les espérances chinoises. Il a trouvé une solution chinoise au problème chinois. Et en lui, le peuple chinois s'adore lui-même. Il est devenu le symbole du lien national.
Pour bien comprendre la Chine, vous utilisez une formule d'un poète et dites que le peuple chinois, c'est un peu comme une tortue qui aurait reçu un énorme coup de bâton et qui donc mettra beaucoup de temps à ressortir. Comment faut-il comprendre cela ?
Eh bien, il faut comprendre que le peuple chinois est farouchement nationaliste. Et ça s'explique d'autant plus qu'il a été effarouché, comme une tortue que l'on s'amuserait à titiller avec un bâton. Depuis le début du 19e siècle, la Chine a été l'objet d'attaques. Elle a été sous la domination de puissances étrangères.
Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous interrogeons pour savoir si 1949, qui est fêté aujourd'hui en Chine, est vraiment un événement majeur, avec vous, Xavier Paulès. Et quand nous écoutons Alain Perfit parler, c'était donc lors de l'apparition de son livre « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera » en 1973, il y a tout de suite un écho qui est fait au 19e siècle, celui de la guerre de l'opium, celui où les puissances occidentales ont mis le pied en Chine. Là aussi, il y a une construction, une relecture légitime, on le comprend, avec une intention, par le gouvernement communiste chinois, de se montrer victime dans son histoire des Occidentaux.
Tout à fait. Il y a une phrase qui est importante. Bon, je passe un peu sur la comparaison entre le peuple chinois et la tortue qui ne nous mène pas très loin, je pense. Mais par contre, Perfit dit une chose très juste, c'est que le peuple chinois est farouchement nationaliste. Et effectivement, il est farouchement nationaliste, mais de fraîche date, en réalité. C'est quelque chose précisément qui se noue durant la période républicaine. Mais il y a eu une relecture du 19e siècle dans une perspective nationaliste, précisément, et en particulier l'historiographie communiste et même l'historiographie nationaliste avant elle, a fait des guerres de l'opium un événement crucial, majeur. Alors qu'en réalité, à l'échelle de l'histoire de la Chine, au 19e siècle, finalement, les guerres de l'opium sont un événement relativement mineur par rapport à la grande vague de révolte qui va balayer le pays, faire des dizaines de millions de morts dans le troisième quart du siècle, en particulier la révolte des Taiping, mais également la révolte des Nian, les grandes révoltes musulmanes de l'ouest de la Chine qui vont complètement vider démographiquement ces provinces qui vont être réprimées avec une férocité incroyable. Et donc, ces guerres de l'opium, on en a fait donc, le symbole de l'entrée dans la modernité de la Chine, du début du siècle des humiliations, comme l'expression consacrée en Chine. Et donc, on a majoré tout de même leur importance.
Oui, il faut rappeler les guerres de l'opium, nous sommes dans les années 1840 puis 1850, quand notamment les Britanniques veulent imposer le commerce de l'opium que les Chinois refusent, en tout cas quand les Occidentaux s'implante réellement en Chine, et cette plaie originelle, pour simplifier, est sans cesse mise en avant, alors vous le dites Xavier Paulès, mise en avant par les gouvernements nationalistes chinois au début du XXe siècle, et ensuite repris. Il y a en fait une continuité de discours historique, que le gouvernement soit nationaliste au début du XXe siècle, puis communiste ensuite.
Tout à fait, c'est un excellent exemple de continuité au-dessus de la barrière de 1949, et il y a donc cette lecture des guerres de l'opium, une lecture très métaphorique. Non, faire de l'opium la cause intrinsèque de la guerre, c'est une exagération, c'est-à-dire qu'on est dans un arrière-plan de conquête commerciale, d'une manière plus générale. C'est pas l'opium véritablement que les Britanniques devaient imposer. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a cette continuité, et surtout, il y a une dimension métaphorique de l'opium qui va être employée, c'est-à-dire qu'on va raconter aux Chinois que les étrangers ont sciemment drogué la Chine pour la servir. Et donc, de ce point de vue-là, le terme de guerre de l'opium, l'utilisation de l'opium est extrêmement habile.
Alors, ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que chez nous également, c'est-à-dire en Occident, il va y avoir une construction, dans le même temps, c'est la construction du péril jaune, c'est quelque chose de la fin du 19e siècle, mais que l'on retrouve très fortement au début du 20e siècle avec la publication d'ouvrages, la peur de cette puissance grandissante que l'on retrouve à travers tout le XXe siècle, jusqu'à Charles Trenet qui chante Le Chinois en 1966.
Faisons vite, on cachette une collecte, qu'on lui achète un billet délirant, il y a de roi. Offrons-lui un passage pour Pékin, ou plus sage pour Pantin, au fond du quartier chinois. Qu'il s'en aille, Rome ou Sparte, l'important, c'est qu'il parte, car s'il reste dans 10 ans, oui ma foi, il est capable d'atteindre son but, qui est de l'éteindre sur nous, et on sera quoi, tous des Chinois.
Aïe, 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 on sera quoi, tous des Chinois? C'est Charles Trenet en 1966 qui, à travers la culture populaire, évoque des craintes, mais c'est vrai, des craintes qui sont celles du péril jaune, et puis il y a la crainte démographique. Est-ce que vous pensez que ce regard de l'Occident, ce regard caricatural, a été réutilisé par les différents mouvements nationalistes ou communistes chinois? Est-ce que ça les a renforcés dans l'idée d'une identité chinoise qui s'opposerait à l'Occident?
En fait, la notion de péril jaune est au moins autant dirigée contre le Japon, notamment suite à la guerre russo-japonaise. La victoire japonaise a beaucoup surpris et beaucoup alimenté de fantasmes en Occident, alors qu'en réalité, c'est une guerre qui a été gagnée d'extrême justesse par le Japon, qui était l'armée japonaise était au bord de l'effondrement logistique au moment où ils ont quand même remporté la victoire. C'est chose qu'on oublie un petit peu trop souvent. Donc, le péril jaune, plus largement, ne porte pas seulement sur la Chine, mais aussi sur le Japon. Mais effectivement, il y a cette idée quand même toujours sous-jacente, et peut-être que c'est encore plus vrai dans un contexte états-unien ou de monde anglo-saxon dans lequel il y a des œuvres de fiction telles que les aventures de Fu Manchu, une espèce de génie du mal qui complotait, trame un complot mondial. Et donc c'est quelque chose qui a pas mal marqué les jeunes générations d'Américains, beaucoup moins en France. Et donc il y a cette idée effectivement d'une menace de la Chine, que la Chine peut faire peser, qui se décline de manière différente à différentes périodes. Quel est le reflet de ce sentiment en Chine? Il est assez faible, finalement. En réalité, ça ne veut surtout pas dire que les Chinois ne sont pas préoccupés par ce qu'on pense d'eux à l'étranger. Au contraire, et précisément, le nationalisme chinois, depuis la fin du 19e siècle, se nourrit du sentiment que la Chine était moquée, ridiculisée en Occident. Sujet de moquerie, précisément, les clichés de la natte. Le cliché du fumeur d'opium à Langui, le cliché du Chinois joueur frénétique, c'est des choses qui blessent profondément la fierté de l'élite intellectuelle chinoise de la fin du 19e, qui découvre les pays occidentaux en profondeur. C'est les premières générations d'intellectuels chinois qui vont faire toutes leurs études aux États-Unis, au Japon ou en Grande-Bretagne. Et donc ça, c'est quelque chose qui va très fortement, la notion de honte, la notion, ce jeu de miroir, c'est quelque chose qui va être un puissant moteur du nationalisme chinois début du XXe siècle et toujours aujourd'hui.
Xavier Paulès, vous publiez aux Belles Lettres La République de Chine, Histoire générale de la Chine, 1912-1949. Nous avons mis en place des éléments d'analyse qui traversent les régimes politiques. Nous sommes partis du 19e siècle et nous avons évoqué le fait qu'il y a des humiliations, il y a un nationalisme qui correspond très bien à des gouvernements, qu'ils soient communistes aujourd'hui ou plus anciens, mais même impérial de la fin du 19e siècle. Vous, vous êtes intéressé à cette période, 1912-1949, c'est-à-dire quand la monarchie millénaire cesse en Chine et avant qu'une autre forme de monarchie apparaisse, celle qui est communiste. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là? En quoi elle était essentielle pour en faire un livre?
Bon, la rupture cruciale, c'est même peut-être plus 1901-1912 que 1912 à proprement parler. Dans la mesure où, s'il y a une erreur qu'il ne faut pas commettre, je pense, c'est d'imaginer cette dynastie Qing comme une dynastie qui est morte de son immobilisme, de son incapacité à se renouveler, à se réformer. C'est exactement le contraire qui est vrai. C'est au contraire le caractère radical, très brusqué, des réformes qui sont entreprises dans la dernière décennie de la dynastie, 1901-1912, qui va expliquer cette chute. Et ces réformes sont complètement incroyables. En 10 ans, on va supprimer le système des examens impériaux, qui était un pilier de l'ordre social et intellectuel chinois. On va réformer la forme de l'État. On va lancer un plan de suppression de l'opium qui va être très efficace. On va réécrire le droit. etc., etc., etc. Donc, on fonde la modernité chinoise pendant cette décennie de 1912. Et donc, on est toujours sur cet héritage-là. Et c'est pour ça que je pense que la véritable rupture... Bon, évidemment, je passe sur le fait que 1912, on va basculer du modèle impérial vers l'État-nation, avec une république, ce qui est aussi crucial. Mais c'est évidemment le prolongement de cette décennie de réformes qui s'appelle les Xinjiang en chinois, c'est-à-dire les nouvelles politiques, dont on ne peut pas exagérer l'importance, je pense.
Xavier Pollès, est-ce qu'on pourrait... tenter. J'y vais. Allez, j'y vais, vous me corrigez. Est-ce qu'on pourrait tenter de dire que le gouvernement d'aujourd'hui en Chine, le communisme, essaye de faire croire que 1949 est la vraie rupture? 49 est plutôt l'aboutissement d'un processus, mais qu'il fait tout pour focaliser sur cette année, 49, le 70e anniversaire, pour effacer vraiment tout ce qu'il y a avant, parce que la phase de modernisation a lieu avant son arrivée. Le communisme est autre chose, on ne va pas dire qu'il ne s'est rien passé, bien sûr, mais qu'il y a une volonté de dire « regardez, c'est bien là la rupture ».
Écoutez, on ne saurait mieux dire. Effectivement, c'est exactement ça, et c'est ce que martèle, par exemple, l'enseignement secondaire en Chine. C'est-à-dire que chaque Chinois apprend depuis son plus jeune âge, par exemple, qu'en 1949, la Chine a été libérée. 1949, c'est la libération en Chine. Il est impossible de faire prononcer un autre mot à un Chinois de n'importe quel âge pour parler de 1949. Et on a également dans l'historiographie une autre notion qui est la notion de Jianguo. On a commencé la construction nationale du pays en 1949, ce qui signifie qu'avant, on était dans le chaos, dans l'anarchie, dans la corruption, etc. Donc là, je pense que ce que vous dites est tout à fait exact. Il y a ce mythe qui est entretenu sciemment en République populaire de Chine de la véritable rupture, c'est 1949. La révolution 12 est une révolution bourgeoise qui n'avait pas de, qui était un, disons, au mieux un temps nécessaire, puisqu'il faut quand même ménager Sun Yat-sen qui en était un des instruments politiques. Mais la véritable rupture, c'est soi-disant 1949.
Et nous-mêmes, nous sommes victimes de cette propagande parce que, en réalité, nous connaissons très peu l'histoire de la Chine en général. Si nous la connaissons, c'est souvent après 1949. Nous sommes victimes de ce biais-là, et c'est sans doute, enfin même certainement, l'utilité de votre livre, Histoire générale de la Chine, 1912-1949, la République en Chine. Nous n'allons pas faire du chrony, mais toutes les voies étaient possibles, Xavier Pollès. Vous avez évoqué le Kuomintang, dans les deux mouvements qui luttaient pendant ces années-là. En fait, il y en a un qui a terminé à Formose, Taïwan, l'autre qui a gardé le continent. Mais on sent qu'il y a tous les hasards qui auraient pu arriver, une forme, oui, je vous disais, d'Uchronie, on peut s'amuser à ça. Mais vous insistez beaucoup là-dessus, rien n'est évident. On sait que ça ne l'est jamais en histoire, mais là particulièrement.
Écoutez, je vais vous raconter une petite anecdote. En 1972, Mao Tse-tung recevait Tanaka, le premier ministre japonais, et il a ostensiblement remercié le Japon pour son agression en 1937, en expliquant que sans cette agression, le Parti communiste chinois n'aurait jamais pu conquérir le pouvoir. C'est tout à fait exact. En réalité, la guerre sino-japonaise de 1937-1945 est le grand facteur qui explique la victoire du communisme. C'est une incroyable succession de bénédictions pour le Parti communiste chinois qui est au bord de l'anéantissement en 1937. Il est sauvé par le fait que la Chine n'a pas d'alliés possible à cette époque, à part l'URSS. Et donc, Chiang Kai-shek est obligé de s'allier à l'URSS et donc d'épargner le Parti communiste chinois parce qu'il a besoin, désespérément besoin d'alliés face au Japon. Et donc, de ce point de vue-là, c'est ce que j'explique dans le chapitre 4 du livre, il y a véritablement une succession de providences qui explique en grande partie aussi, il ne faut pas exagérer, les communistes se sont renforcés, ils ont su construire un appareil militaire, ils ont construit un parti efficace. Mais néanmoins, ils ont quand même eu beaucoup de chance.
Nous le voyons bien dans La République en Chine, édité aux Belles Lettres, Xavier Pollès. Il y a vraiment une aventure à lire pour comprendre ce qui est fêté aujourd'hui, les 70 ans du régime communiste chinois. Cette année 1949, pour comprendre l'année 49, il faut regarder ce qu'il y a avant. Nous allons faire, en attendant de parler des enfermements des minorités 16e, 18e siècle, les prisons de la faune, nous allons faire un détour en prison. Nous allons faire un détour en prison avec Étienne Dao, qui s'est accaparé Jean Genet pour une sublime chanson sur mon cou.
Sur mon cou, sans armure et sans haine, mon cou. Que ma main plus légère et grave qu'une veuve. Et fleurs sous mon col, sans que ton cœur s'émeuve. Laisse tes dents poser leur sourire de loup. Oh viens mon beau soleil, oh viens ma nuit d'Espagne. Arrive dans mes yeux qui seront morts demain. Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main. Mène-moi loin d'ici, battre notre campagne. Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir. Ni les fleurs soupirer, et des prés l'herbe noire. Accueillir la rosée, où le matin va boire. Le clocher peut sonner, moi seul je vais mourir. Oh viens mon ciel de rose, ou ma corbeille blonde. Visite dans sa nuit ton condamné à mort. Arrache-toi la chair, tu escalade mort. Mais viens, pose ta joue contre ma tête ronde. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour. Nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour. Amour, vient sur ma bouche, amour, ouvre tes portes. Traverse les couloirs, descends, marche léger. Vole dans l'escalier, plus souple qu'un berger. Plus soutenu par l'air qu'un vol de feuilles mortes. Oh, traverse les murs, s'il le faut, marche au bord des toits. Des océans, couvre-toi de lumière. Use de la menace, use de la prière. Et viens, ô ma frégate, une heure avant ma mort.
Étienne Dao, Sur mon cou, une chanson qui donne des frissons. Sur mon cou, un texte issu du Condamné à mort, poème écrit en 1942 par Jean Genet dans Le cours de l'histoire, une émission réalisée par Thomas Jost avec aujourd'hui à la technique Inès De Bruyne. Nous poursuivons notre actualité d'histoire avec un ouvrage sur les prisons de la foi. Déjà, on se demande ce que c'est, ces prisons de la foi. Bah, ça tombe bien parce que Natalia Muchnik est avec nous et va pouvoir nous en parler, historienne, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous publiez cet ouvrage aux presses universitaires de France. 16e, 18e siècle, Natalia Muchnik, diversité absolue des prisons, c'est-à-dire que nous n'avons pas un modèle de prison à ce moment-là, ça dépend d'où on est, la ville, hors de la ville, selon les régions, c'est vraiment un fourre-tout grandiose.
Oui, c'est toujours difficile à imaginer, parce qu'on a une image, je crois que vous allez parler de Foucault tout à l'heure, une image assez stéréotypée, en tout cas formalisée de ce que peut être une prison. Il faut imaginer que durant cette période, alors moi j'ai travaillé plus précisément sur l'Angleterre, la France et l'Espagne, mais on pourrait élargir évidemment la remarque, on a à la fois il n'y a pas de bâtiment construit explicitement, sauf exception, comme la prison de Florence, comme d'autres, quelques autres prisons, mais de bâtiments expressément construits pour être une prison. Et par conséquent, les autorités, les instances diverses occupent des bâtiments existants, ce qui amène évidemment des conséquences pour la vie à l'intérieur de ces prisons qui m'intéressent tout particulièrement. Donc on a des prisons dans des portes urbaines, comme à Londres, avec Newgate, Ludgate, les différentes portes qui sont à proximité, qui sont au cœur même de la cité. On a des tours isolées comme la tour de Crest dans la Drôme. Donc c'est effectivement, ou des tours plus connues comme la tour de Constance que celle qu'on connaît le mieux en France, qui là aussi une tour d'enceinte, mais on a aussi des palais, des auberges quand on est dans les campagnes. Donc c'est vraiment cette idée de diversité, et une diversité aussi qui se reproduit à l'intérieur des prisons, non seulement parce qu'effectivement les prisonniers, les gardiens doivent s'adapter justement au méandre de ces bâtiments-là, mais aussi parce que les conditions d'enfermement sont elles-mêmes très diverses suivant les individus. Donc c'est vraiment cette idée de diversité, je pense, vous avez raison, qu'il faut retenir sur ces prisons, ces geôles d'Ancien Régime.
Une auberge peut être une prison ?
Une auberge peut être une prison. C'est ce que j'ai dit, pardon, non, je me suis trompée. Je voulais dire une grange, pardon.
Une grange, non, mais une grange peut être une prison.
Hein. Une grange peut être une prison, tout à fait. Dans les campagnes, il n'y a pas toujours de bâtiment possible pour abriter. Et non seulement une grange peut être une prison, mais des maisons particulières peuvent être des prisons. Parce que les prisons, évidemment, manquent de bâtiments. Donc, les autorités doivent louer doivent occuper des maisons particulières, et là soit elles sont donc gardées par des geôliers, soit les personnes sont assignées à résidence chez des autorités, chez des individus qui sont responsables de leur maintien et peuvent subir des poursuites si la personne par exemple s'évade. Donc c'est tout un autre système qu'il faut imaginer, tout à fait.
Alors Natalia Mushnik, vous avez évoqué la figure de Michel Foucault, Surveiller et punir, Naissance de la prison, son ouvrage de 1975. C'est vrai que c'est un moment fort dans l'historiographie ou dans la réflexion de ce qu'est la prison. Nous allons écouter Michel Foucault qui était reçu dans les Lundis de l'Histoire, c'était le 23 mai 1977, et qui parlait du fait d'habiter en prison.
Construction du panoptique. Une maison de pénitence sur le plan que l'on vous propose serait un bâtiment circulaire. Ou plutôt, ce seraient deux bâtiments emboîtés l'un dans l'autre. Les appartements des prisonniers formeraient le bâtiment de la circonférence sur une hauteur de 6 étages. On peut se les représenter comme des cellules ouvertes du côté intérieur, parce qu'un grillage de fer peu massif les expose en entier à la vue. Une galerie à chaque étage établit la communication. Chaque cellule a une porte qui s'ouvre sur cette galerie. Une tour occupe le centre, c'est l'habitation des inspecteurs. Mais la tour n'est divisée qu'en 3 étages parce qu'ils sont disposés de manière que chacun domine en plein 2 étages de cellules. La tour d'inspection est aussi environnée d'une galerie couverte d'une jalousie transparente qui permet au regard de l'inspecteur de plonger dans les cellules et qui l'empêche d'être vu, en sorte que d'un coup d'œil, il voit le tiers de ses prisonniers et qu'en se mouvant dans un petit espace, il peut les voir tous dans une minute. Mais fût-il absent, l'opinion de sa présence est aussi efficace que sa présence même.
La voix de Michel Foucault qui parle de la prison. Natalia Mushnik, alors qu'est-ce que c'est que cette prison selon Foucault ? C'est une prison idéalisée, fantasmée, c'est-à-dire celle du chercheur. La prison panoptique, cette prison où le surveillant se trouve au centre et peut voir tout le monde. Cette prison-là est loin de celle que vous avez pu étudier.
Disons qu'effectivement, la prison panoptique a été réalisée. Il y a des prisons, et cette image de surveillance, de regard du gardien qui peut observer l'ensemble des prisonniers sans toujours être vu, mais en pouvant être vu, l'image évidemment de la cellule, qui est l'image contemporaine, ne correspond pas aux périodes précédentes, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas de cellule. Souvent, les individus sont, sauf dans certains cas, je pense en particulier aux prisons secrètes de l'Inquisition, où les individus effectivement peuvent être isolés, mais pas toujours dans ce qu'on appelle les prisons secrètes. Il y a différents types de prisons pour l'Inquisition, des prisons plus ouvertes comme les prisons de la pénitence pour les condamnés, et des prisons secrètes durant le procès où les individus sont isolés. Mais en général, sauf quelques exceptions ou les cachots en cas de punition, etc., eh bien, les individus sont regroupés. On a parfois, effectivement, plusieurs dizaines d'individus, comme je parlais tout à l'heure de la tour de Constance, où sont exclusivement, durant une période, des femmes accusées de protestantisme ou protestantes, et qui sont rassemblées dans la salle des chevaliers à la tour de Constance, par exemple. Donc, on a effectivement cette cellule même ne représente pas, justement, la réalité des prisons d'Ancien Régime. L'autre élément qui doit être noté, justement, Alors évidemment, par rapport à Foucault, c'est important parce que l'influence de Foucault, là, c'est plus d'un point de vue, si vous voulez, historiographique.
Ça nous intéresse aussi.
Voilà, l'influence de Foucault, le paradigme foucauldien, d'une image de la, il a essayé d'analyser ce que la prison signifie, cristallise de la société, des formes de disciplinarisation, de classification de l'individu. Évidemment, avec cette idée que la privation de liberté comme peine naît justement au 19e, tout cela a fait que, d'une certaine manière, et tous ceux qui l'ont suivi, bien entendu, a effacé un peu les prisons dites d'Ancien Régime. Aujourd'hui, il y a une historiographie dont je fais partie, on a un certain nombre en France, mais aussi ailleurs, a justement travaillé sur ces prisons, cette prison d'avant. D'abord parce que cette prison d'avant pouvait servir de condamnation, tout à fait. J'ai parlé de l'Inquisition, c'était une peine importante pour l'Église qui ne pouvait pas faire couler le sang. Donc la prison pouvait être utilisée comme peine, mais aussi durant les procès. Et donc là, dans ce cas-là, pouvait s'écouler durant de nombreuses années. Le prisonnier restait en attente justement de la fin de son procès. Donc il y a une réalité de ces prisons d'avant Foucault, mais qui d'une certaine manière a été un peu obscurcie aussi par les galères, qui sont une forme d'enfermement, mais qui ont été un peu dominantes dans cette idée de l'enfermement des 16e, 17e, 18e siècle. Donc, si vous voulez, Foucault est un peu une figure incontournable, mais face à laquelle il faut pouvoir justement tout de même prendre ses distances en ce qui concerne l'enfermement.
Oui, et puis c'est l'avantage de la recherche, c'est que ça avance toujours, il y a toujours de nouvelles choses. Natalia Mouchnik, vous évoquez l'enfermement et les galères notamment. C'est vrai que dans le stéréotype de l'enfermement d'Ancien Régime, la galère, ça se pose là. Et puis, il y en a d'autres aussi, formes d'enfermement. Par exemple, le bagne dans l'imaginaire collectif, le bagne est souvent associé à Victor Hugo, Les Misérables, Vidocq. Le bagne, c'est cette prison du 19e siècle qui fait un écho en fait à ce qui se passait auparavant. Et notamment, nous allons écouter un extrait des Misérables, le téléfilm de José Dayan, un extrait des Misérables où l'on voit le lien entre ce qu'est être prisonnier et ce que veut dire vivre en société. Quand on est prisonnier, on est misérable.
J'ai tenu à venir t'annoncer moi-même la nouvelle.
Alors, monsieur Javert, c'est qu'elle doit être mauvaise.
Jean Valjean, pour ta conduite héroïque, la commission de discipline t'accorde une remise de peine.
Combien ?
2. Mais qu'est-ce que c'est que 2 mois dans une vie ? D'ailleurs, est-ce qu'on peut appeler une vie l'existence que tu mènes ici depuis 18 ans ?
Quand je sortirai ?
Quand tu sortiras, tu emporteras le bagne à la semelle de tes godillots. Ça te suivra comme un chien jusqu'au jour où tu reviendras. Vous finissez tous par revenir.
Les Misérables de José Dayan, dans lequel Gérard Depardieu et Jean Valjean et John Malkovich et Javert, Les Misérables, moment fort. Cette idée que la prison colle à la peau, colle à la vie, est quelque chose qui est entré dans notre esprit avec des séparations très nettes entre le monde de la prison et le reste de la société. Mais vous, Natalia Mouchnik, vous montrez qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe. La prison n'est pas coupée de la société, elle est vraiment dans la société.
Oui, elle n'est pas coupée. Juste pour revenir à l'extrait, parce que c'est intéressant, l'enfermement est assez présent dans Les Misérables, et Victor Hugo lui-même a été intéressé, il a visité la conciergerie, sa maîtresse Léonie Donnet a été elle-même enfermée justement pour adultère, donc c'est quelque chose qui est assez présent, et c'est vrai qu'on voit cette idée justement que Jean Valjean, après avoir passé 19 ans au bagne de Toulon, est poursuivi dans quel que soit l'endroit où il se trouve, est poursuivi par justement ce statut de prisonnier. Et ça me vient, donc j'en viens justement avec cette idée de statut de prisonnier, même au-delà de la prison, à dire que, donc vous parlez justement de cette idée de non-fermeture, d'ouverture, du fait que à cette époque-là, en réalité, le fait d'être prisonnier est plus d'une certaine manière un statut, justement, que le fait d'être vraiment concrètement enfermé dans les murs. C'est un peu ça que je retiendrai, cette idée un peu dominante. Pourquoi ? Parce que comme vous l'avez dit, il y a une forme d'ouverture. D'ouverture qui est soit conjoncturelle, parce que dans les prisons anglaises ou même en France, les individus contre-financement, hein, tout se finance dans les prisons. Il faut vraiment avoir cette idée à l'esprit. Il ne s'agit pas de corruption, mais de fonctionnement structurel. Tout se finance pour les individus qui doivent tout payer. Et donc le fait de pouvoir sortir avec ou sans gardien, en général des gardiens dans les prisons londoniennes, par exemple, des gardiens sont payés pour pouvoir accompagner les prisonniers. Donc là, il y a effectivement conjoncturel, structurel. Ensuite, il y a des prisons qui sont structurellement ouvertes. Tout à l'heure, je parlais des prisons de l'Inquisition. Vous avez ces prisons secrètes. Et de l'autre côté, vous avez ces prisons qui s'appellent plutôt les prisons de la pénitence pour les condamnés, où les individus sont enfermés pendant la nuit et durant la journée, puisqu'on ne finance pas leur pain, leur nourriture, ils doivent errer dans les rues pour éventuellement faire de menus travaux ou pour mendier. En général, c'est le grand recours des individus. Et parfois, ça va plus loin. C'est-à-dire, parfois, certains, ponctuellement, sont autorisés à aller un peu plus loin que la limite de la ville et reviennent le dimanche ou pour certaines célébrations. Donc effectivement, l'idée de porosité est un peu fondamental. Et il ne s'agit pas non plus, parce que souvent on m'accuse de brosser un tableau très idyllique de la prison d'Ancien Régime, il ne s'agit pas du tout de ça. C'est plutôt de montrer quelles étaient les pratiques des acteurs, évidemment dans un milieu qui était quand même un milieu hostile. Donc je
oui,
précise
c'est
ça parce que
le préciser.
Sinon on a... Voilà.
Surtout que vous étudiez, Natalia Mouchnik, les prisons de la foi, l'enfermement des minorités 16e, 18e siècle. Vous étudiez les minorités religieuses, particulièrement il y a de la religion. Quelles sont ces minorités en fait en prison ?
Alors je précise tout de suite que religion, dans le sens de l'Ancien Régime, c'est une vision, si vous voulez, plus sociale du religieux tel que l'on conçoit aujourd'hui. C'est-à-dire les individus, surtout avant les révolutions, enfin la fin du XVIIIe siècle, dans ces pays que j'étudie plus particulièrement, doivent appartenir à un corps. Et donc, ils appartiennent effectivement à des groupes qui sont en général des groupes à essence religieuse, et en commençant par celui de la paroisse. Donc ça, c'est pour un peu planter le cadre. Pour ce qui est des groupes que j'étudie plus précisément, donc je travaille sur ces trois pays, il s'agit des catholiques ou des crypto-catholiques en Angleterre après l'instauration de la réforme protestante au milieu du XVIe siècle, et également pour ce qui est de la France, des protestants ou crypto-protestants avant et après la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Et pour ce qui est de l'Espagne, ce sont donc les morisques, les chrétiens d'origine musulmane, et les maranes ou crypto-judaïsants, donc les chrétiens d'origine juive, donc deux groupes effectivement réprimés par les statuts de pureté de sang et l'Inquisition. Donc ce sont quatre groupes, si vous voulez, que j'ai étudié par ailleurs aussi dans leur rapport avec leur diaspora respective, mais aussi qui vivent dans la société globale, si vous voulez, dans des situations de clandestinité assez similaires, qui vivent dans des pays d'abord qui sont culturellement, socialement comparables, et donc qui me permettaient justement d'établir des croisements, éventuellement des comparaisons entre eux, justement, au-delà, si vous voulez, des frontières confessionnelles, de voir un petit peu comment les individus fonctionnent, quelles sont leurs pratiques à l'intérieur des espaces et autour des espaces de l'enfermement aussi, puisque ce qui m'intéresse, c'est aussi les liens entre l'intérieur et l'extérieur.
Oui, c'est ça qui est passionnant, de voir que la prison de l'Ancien Régime n'est pas du tout la prison telle qu'on peut se l'imaginer. Il y a comme une déconstruction que vous faites autour de cette prison, avec même cette idée de liberté, et puis un accès à des sources que l'on n'imagine pas. C'est vrai que vous avez étudié toute forme de source et dans différents pays. Ce qui est intéressant aussi, pour en parler, je pense que c'est sympathique de faire un petit tour dans les prisons de Nantes.
Dans les prisons de Nantes, landi-du-du-du-dan, dans les prisons de Nantes, y avait un prisonnier. Personne ne vint le voir, landi-du-du-dan. Personne ne vint le voir que la fille du geôlier, à la fille du geôlier. Un jour il lui demande, landi-du-du-dan. Un jour il lui demande, oui, que dit-on de moi, que dit-on de moi.
Trianne dans les prisons de Nantes, mais c'est une chanson du XVIIe siècle, hein, donc il y a vraiment quelque chose qui nous évoque votre ouvrage, Natalia Mouchnik, les prisons de la foi. Vous avez étudié les graffitis, notamment, vous avez jeté un œil sur les graffitis dans les prisons.
Oui, c'est quelque chose qui m'a effectivement passionnée, c'est une source, enfin, qui est assez diverse dans les trois pays. Il y a beaucoup de sources publiées justement, ou même que l'on peut voir. Hein, je pense en particulier à la Tour de Londres, où quiconque peut aller voir ces centaines de graffitis, un véritable palimpseste sur les murs où on voit à la fois le nom, les noms des prisonniers, les dates. Parfois, pour certains groupes religieux, par exemple les protestants en France, on a des psaumes qui se trouvent sur les murs, qui sont évidemment ceux qui restent, ce sont des psaumes, ce sont des graffitis gravés, mais il faut savoir qu'à l'époque, ils pouvaient être peints. On a des graffitis assez connus dans le palais de l'Inquisition en Sicile, à Palerme, qui ont été étudiés, qui sont absolument fascinants, des grandes fresques, et les individus pouvaient aussi, il y a des évocations des graffitis même dans d'autres sources, je pense, où on voit justement comment les individus aussi dessinaient avec de la suie, avec du charbon. Évidemment, ceux-là ne sont pas restés, mais sinon, il y a énormément de graffitis gravés qui sont une source très importante parce qu'ils permettent justement aux prisonniers aussi, non seulement de s'affirmer contre l'effacement social que constitue le statut de prisonnier, mais aussi de dialoguer avec les autres prisonniers et éventuellement leurs co-religionnaires, les membres de leur groupe à plusieurs générations. Donc on a comme ça des témoignages de graffitis qui se répondent. Ça c'est très intéressant dans le cas anglais en particulier. Et donc là, ça permet justement un peu de comprendre ce qu'était d'essayer en tous les cas de comprendre la vie des prisonniers, tout à fait.
Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant dès qu'on est visiteur et en vacances dans une ancienne prison, une tour ou n'importe quoi, de passer du temps à lire les graffitis. Et nous allons sortir là pour quelques minutes de l'espace de la prison, juste pour prendre un grand bol d'air de liberté, car c'est le moment du journal de l'histoire d'Anaïs Quien. Bonjour Anaïs Quien.
Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous.
Alors Anaïs, les célébrations de la chute du mur n'ont pas encore commencé, mais l'agenda médiatique les devance, à commencer justement par la chaîne franco-allemande Arte, quelle belle chaîne, qui parmi bien d'autres propose un documentaire sur l'histoire du mur. Il s'intitule « De briques et de sang, les secrets du mur de Berlin ». Tout un programme.
Et c'est une véritable biographie du mur que nous propose le documentaire de Christoph Weinert et Jürgen Ast, de son béton et des martyrs de la guerre froide qui y ont trouvé la mort pendant près de 28 ans.
Caméra 12 sur moniteur 2.
401 au secteur C, individu non identifié à l'approche de la frontière.
Le documentaire s'ouvre sur une scène curieuse située dans une salle de surveillance tapissée d'écrans pour nous projeter dans un futur non advenu. Les hommes en présence s'apprêtent à neutraliser une fugitive qui tente de franchir une frontière high-tech, le mur dont avait rêvé Erich Honecker, l'homme fort de l'Allemagne de l'Est, avant de le voir s'effondrer impuissant en 1989. Le mur de Berlin est érigé en 1961 après le passage à l'Est de près de 200 000 Allemands en quelques mois. L'Union soviétique est menacée de perdre la compétition idéologique engagée avec l'Occident, faute d'hommes à gouverner. Le rideau de fer incarné se doit de faire rempart au fascisme et surtout de procurer un regain de souveraineté. Mais ce sont également les hommes, les convaincus de l'expérience socialiste appliquée au réel, qui font la chair de ce film. Soldats, gardes-frontières, expropriés du parcours de la frontière de béton, directrice de l'orphelinat qui accueillait les enfants dont les parents avaient été arrêtés alors qu'ils tentaient de passer à l'ouest. Tous disent leur conviction première de son utilité et racontent l'évanouissement de cet idéal. C'est bien pour cela, pour déshumaniser la surveillance du mur, que l'on imagine sa modernisation en plusieurs étapes, pour que l'élimination spectaculaire des fuyards ne pèse plus sur la conscience des gardes-frontières et sur l'image publique du régime. L'amalgame de matériaux disparates dressé à la va-vite en 1961 est remplacé par un édifice homogène en 1966 et conforté au début des années 70 par un grillage équipé de dispositifs de tir automatique et de mines, qui ne manquera pas d'indigner les partisans du respect des droits de l'homme. Protéger la ligne de démarcation devient une obsession, mais le spectacle des corps échoués dans la zone de sécurité reste un cauchemar pour ceux qui en restent les premiers spectateurs.
Le mur 75, c'est son nom de code, est censé mieux s'intégrer au paysage berlinois. Pour augmenter son rayonnement esthétique, côté ouest, le béton est peint en blanc, histoire de mettre fin à la grisaille. Côté est, la peinture blanche a une autre fonction. La silhouette des fugitifs se détache beaucoup mieux sur fond clair.
Un ultime projet de réforme du mur est élaboré par la RDA à partir de 1983. Une frontière parfaite, un mur invisible, dissimulé par une haie de verdure pour le masquer, et l'injection à distance de drogues anesthésiantes pour neutraliser les fuyards. Pas de mur, pas de béton, c'est une haie de verdure, donc, qui symbolise maintenant la séparation. Ce mur 2000, tout à fait glaçant, n'a jamais vu le jour.
Et c'est tant mieux. Merci beaucoup Anaïs Quien. On retrouve tous les liens et les informations complémentaires sur la page du Journal de l'Histoire. C'est sur franceculture.fr. Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Camille André, Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès et Alice Rouet. Le cours de l'histoire aujourd'hui qui croise, mais c'est le hasard de la programmation, deux actualités. La parution d'un ouvrage, Les prisons de la foi à l'enfermement des minorités 16e-18e siècle de Natalia Michnik. Et La République de Chine, un ouvrage qui paraît de Xavier Paulès, Enfermement des minorités religieuses. Nous parlons aujourd'hui des 70 ans de la République populaire de Chine. On pense aux Ouïghours. Xavier Paulet, je me tourne vers vous. Je ne vais pas vous demander une analyse sur les Ouïghours aujourd'hui en Chine. Mais le fait d'enfermer des minorités religieuses musulmanes doit plus se comprendre dans une lecture sur le longtemps de l'histoire de la Chine ou c'est spécifiquement lié au régime communiste. Est-ce que ça doit rentrer dans une lecture où vous avez étudié particulièrement cette première période du XXe siècle où il n'y avait pas encore de communistes?
On est dans un processus d'assez long terme de sinisation de ces espaces périphériques qui étaient à l'époque impériale en gros, pour schématiser à l'extrême, administrés, auto-administrés par les élites locales, les élites ouïghours, les élites mongoles et aussi également dans la Chine du sud-ouest. Et il y a eu depuis, par contre, 1949 a représenté une rupture significative puisque à partir de cette époque, la Chine a véritablement entrepris de tenir en main solidement ces régions et de plus en plus à l'aide d'une politique de colonisation de colons Han, de les asservir et donc culturellement de submerger ceux qui sont devenus des minorités, c'est-à-dire les Ouïghours en particulier au Xinjiang. Et là, on est en train de franchir une étape assez effrayante dans ce processus de marginalisation des populations autochtones.
Oui, avec des camps, enfin des photos circulent désormais avec des camps d'enfermement qui font vraiment le froid dans le dos. Vous, Natalia Michnik, quand on évoque une actualité telle que celle-ci, ça fait écho à votre sujet dans le sens où vous avez travaillé sur l'ancien régime, les prisons d'enfermement. Mais globalement, la notion de prison traverse les temps. Vous disiez qu'il y a par exemple besoin, sous l'ancien régime, de financement pour bien vivre en prison. C'est le cas aussi aujourd'hui.
Oui, disons que aujourd'hui il y a quand même un minimum, même si les gens, effectivement, les individus peuvent ajouter des éléments. Ce qui est peut-être le parallèle, hein, aujourd'hui, l'enfermement est très étudié, en particulier par les sociologues et les géographes. C'est vrai qu'on pense tout de suite, c'est la question d'habitude que l'on me pose, à tous ces phénomènes dits de radicalisation, d'intensification de foi religieuse. Et c'est vrai qu'en ce sens-là, par exemple, il y a effectivement une constante dans la mobilisation du religieux dans les espaces de l'enfermement. Et il y a des points, des sociologues qui ont discuté, conversé à propos de ça. Et donc, elles voyaient effectivement des constantes, justement, par rapport au 16e, 18e siècle, à ce qui se passe aujourd'hui.
Merci beaucoup à vous de Natalia Michnik. Merci beaucoup, Xavier Paulès, pour avoir éclairé l'actualité. La semaine prochaine, le cours de l'histoire par... À l'autre bout du monde, nous allons réfléchir à la notion de grande découverte, une notion grandement remise en cause aujourd'hui.